à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je m'appelle Thomas Schlesser et je vais vous parler de mon travail sur L'univers sans l'homme, un livre publié aux éditions Hazan en 2016. J'ai travaillé sur ce sujet pendant 3 ans dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches et j'ai été lauréat du prix Bernier de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, L'univers sans l'homme, d'où ça m'est venu? En fait, c'est un sujet qui m'a été inspiré à un moment où je suis allé voir une exposition. Une exposition d'art contemporain qui était l'exposition Pierre Huyghe au Centre Pompidou en 2013. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un de mes amis qui m'a dit « Tiens, tu devrais lire une interview de Pierre Huyghe. Il dit que ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le monde sans l'homme. » Non pas l'expression « univers sans l'homme », mais bien « monde sans l'homme ». Et c'est une interview qui était parue, en effet, dans le journal Les Inrecuptibles, que je lis. Et Pierre Huyghe évoque en particulier deux penseurs contemporains, Quentin Meillassou et Bruno Latour. Et il explique qu'il a eu plaisir à trouver confirmation de ses intuitions plastiques, artistiques, eh bien, au contact des textes de Quentin Meillassou, de Bruno Latour. Alors ça m'a intrigué et je me suis dit que ce serait, en tout état de cause, un très beau sujet que de réfléchir à l'univers sans l'homme. Et puis le véritable déclic a eu lieu en fait, quelques semaines plus tard, je me suis replongé dans un texte que je connaissais, ou que je croyais connaître en tout cas, qui est le Salon de 1859 de Charles Baudelaire. J'avais lu ce texte au moment où je faisais ma thèse sur Gustave Courbet, parce que c'est un texte dans lequel Baudelaire parle des réalistes, des naturalistes. Et les réalistes, il les rebaptise les positivistes. Et c'est surtout un texte dans lequel l'auteur des Fleurs du Mal érige l'imagination en reine des facultés. Il se trouve qu'il y a un passage dans lequel, précisément, Baudelaire s'en prend aux réalistes et va dire que chez eux, ils font comme si l'homme n'existait pas. Et il a cette phrase purement nominale où il dit « l'univers sans l'homme ». Alors ça m'a évidemment beaucoup frappé puisque cette expression me trottait dans la tête sans que je me souvienne à ce moment-là que sans doute dans un coin de mon inconscient elle avait été distillée par Baudelaire quelques années auparavant et j'y ai vu comme une sorte de signe du destin. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse la généalogie de cette notion, l'univers sans l'homme, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Et c'est pour ça que le livre a comme fourchette chronologique 1755-2016. Alors 1755, pour une raison à la fois simple et complexe, c'est que c'est un événement traumatique dans l'histoire de l'humanité. 1755, c'est l'année du cataclysme de Lisbonne, le tremblement de terre de Lisbonne, qu'on a au moins tous croisé une fois en lisant Voltaire, puisqu'il l'évoque dans un grand poème et puis dans Candide. Et il se trouve que cet événement, il est très très intéressant sur le plan de l'interprétation, je dirais, anthropologique, cosmogonique et religieuse, parce qu'il a été l'objet d'une querelle entre, d'un côté, une interprétation qu'on pourrait qualifier de providentialiste, c'est-à-dire les instances religieuses qui vont dire que il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts parce que Lisbonne était devenue décadente et que c'est une punition venue de Dieu, une espèce de résurgence de Sodome et Gomorre, si vous voulez. Et puis une autre interprétation beaucoup plus mécaniste et qu'on pourrait même qualifier de matérialiste, qui est celle de Voltaire, mais qui est également celle d'un jeune philosophe à l'époque, qui est Emmanuel Kant, et qui consiste à dire que voir la providence dans un événement pareil, c'est non seulement obscène, mais c'est en plus absurde, qu'en réalité, Dieu n'a rien à voir dans tout ça, c'est simplement un drame. Un drame parce que la nature est une force aveugle et sourde, indifférente au sort de l'humanité. Autrement dit, la nature pourrait exister sans que l'homme n'y évolue. En d'autres termes encore, un homme sans monde, un homme sans univers, c'est impossible, c'est une vue de l'esprit complètement abstraite. En revanche, un univers sans l'homme, ça, oui, c'est possible. Et il y a là quelque chose qui se profile, qui va avoir une fortune extraordinaire au 19e, au 20e et au 21e siècle, qui est donc celle d'envisager le monde sans l'humanité. Alors naturellement, on pourrait se dire, mais pourquoi le 18e siècle ? Après tout, dès le 16e, le 17e, il y a déjà des vertiges qui remettent en cause la centralité de l'être humain. Et c'est tout à fait juste. Par exemple, Freud, dans son introduction à la psychanalyse, dit qu'il y a eu trois traumatismes pour l'humanité, trois humiliations, trois vexations qui remettent en cause sa mégalomanie. Ça a été d'abord Copernic. Alors bon, Copernic n'avait pas ses thèses publiées au XVIe siècle, donc c'est plutôt Galilée, mais enfin, suivons Freud, ça a été d'abord Copernic, ça a été ensuite Darwin, et puis le troisième, parce que c'est Freud, donc il faut quand même qu'un peu d'ego demeure en vigueur, le troisième c'est évidemment la psychanalyse et Freud lui-même. Alors, le fait est que, en effet, s'il y a bien, je crois, un moment très, très traumatique en dehors de la révolution, copernico-galiléenne, c'est la crise du darwinisme. Pourquoi ? Parce que la crise du darwinisme, c'est un moment où on se dit que, au fond, aux origines de l'homme, il n'y a pas tout à fait un homme. Il y a du poisson, il y a de la créature sous-marine, il y a du singe, il y a tout ce qu'on veut qui fait que, dans l'identité même de l'être humain, il y a du bestial, il y a de l'animal. Et on peut même spéculer davantage et se dire que s'il y a ça aux origines de l'humanité, eh bien, dans un avenir plus ou moins lointain, il y aura tout à fait autre chose que de l'être humain qui se profilera. Alors, c'est amusant parce que ça, dans la sphère des beaux-arts, ça va avoir des grosses répercussions. Par exemple, toute la mouvance qu'on qualifie de symboliste, celle, par exemple, d'Odilon Redon en France, ou de Max Klinger, ou de Alfred Kubin dans les pays germanophones, vont être très imprégnés de ce choc temporel et ce choc anthropologique qui consiste à dire que l'être humain n'est pas tout à fait un être humain, que l'humanité n'est pas une instance ou une espèce insécable, qu'elle est travaillée par d'autres choses qu'elle-même. Et on va voir naître dans le domaine des beaux-arts, des hybridations, des formes un peu monstrueuses. Et également une sorte de retour de refoulé de l'humanité, puisque on voit souvent beaucoup de singes. Il y a notamment un dessin d'Alfred Kubin très étonnant, que malheureusement j'ai oublié de reproduire dans le livre, qui est un singe qui est en train de saisir une femme par derrière, et tout à la fois ça suggère une sorte de viol, et en même temps il est en train de la dévorer, il a des grandes dents vampiriques, donc comme une espèce de darwinisme à l'envers, de revanche du singe sur l'homme, une espèce de descendance animale de l'humanité qu'on va retrouver d'ailleurs dans des films de science-fiction. Prenez par exemple en 1968 un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui est un film tout à fait intéressant, adapté du roman de Pierre Boulle, La planète des singes. Bah, chez Pierre Boulle, en fait, vous avez notamment ce twist final très spectaculaire où Charlton Heston se rend compte qu'il est seul au monde avec le plus grand monument anthropomorphe de la contemporanéité, la Statue de la Liberté, qui est comme échouée dans une bande de sable. Mais si vous prenez le scénario dans son ensemble, c'est du darwinisme inversé. C'est les singes qui ont repris le pouvoir sur les êtres humains. Alors, ce qui est drôle, d'ailleurs, dans La planète des singes, c'est que la dernière réplique, Charlton Heston s'écrit « Les fous, les criminels, ils l'ont fait sauter leur bombe ». Alors, si vous lisez le roman de Pierre Boulle, vous verrez qu'il n'y a pas du tout cette fin-là chez Pierre Boulle. Ça a été quelque chose qui a été rajouté dans le scénario de Franklin Schaffner, qui donc a fait l'adaptation, et qui, dans un premier temps, devait être censuré par les producteurs hollywoodiens, parce que c'était une évocation de la guerre froide qui renvoyait dos à dos les États-Unis et l'URSS. Et ça, évidemment, c'était tout à fait intolérable. Et Franklin Schaffner a tenu bon, ce qui fait que cet imaginaire de l'univers sans l'homme qui surgit dans La planète des singes, dans le film, c'est un imaginaire atomique. Et ce que n'a pas pu voir Freud, et que j'essaye d'expliquer un petit peu dans le livre, c'est que s'il y a bien une anticipation de ce que le philosophe Günther Anders appelle l'obsolescence de l'homme, c'est bel et bien ce moment terrifiant où la bombe atomique apparaît, hein, donc août 1945, et où on se rend compte que l'être humain a la puissance de sa propre autodestruction. C'est ce que Michel Serre appelle l'ère de la thanatocratie, le pouvoir de la mort. Et c'est vrai que à la fois l'art contemporain, le cinéma, la littérature est très fréquemment aujourd'hui traversé par cette obsession, ce fantasme malheureux d'une disparition intégrale de l'être humain par sa propre faute. Au point d'ailleurs qu'il y a même des artistes qui aujourd'hui font des œuvres d'art qui sont censées résister à une déflagration finale et qui s'adresseraient, je dirais, à autre chose qu'à l'être humain. Ce seraient des œuvres pour une archéologie du futur, mais une archéologie sans archéologue, si vous voulez. Alors il y a par exemple ce grand artiste du Land Art qui s'appelle Michael Heiser qui a créé une espèce de gigantesque sculpture au fin fond du désert du Nevada et qui est une sculpture qui est censée pouvoir résister à une bombe atomique. Il y a encore un artiste aujourd'hui comme Trevor Paglen qui a fait des œuvres qu'il a propulsées dans l'espace, une centaine d'images qui sont en fait un récapitulatif de l'histoire de l'humanité et qui permettront donc à des intelligences ou des perceptions du futur qui ne seront pas humaines, de récupérer quelque chose de l'être humain quand la planète se sera autodétruite. Bref, donc on voit comme aujourd'hui cette question reste vraiment très très présente. Je dirais au fond qu'il y a, quatre grands pôles de l'univers sans l'homme dans ses représentations. Il y a deux pôles qui sont sur un axe temporel. L'univers sans l'homme, c'est l'univers d'avant l'homme. Et ça, je dois dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'au XVIIIe siècle, vous savez, il y a cette naissance de cette science qu'est la géologie, avec la prise de conscience que la planète n'a pas 5, 10 ou, comme le pensait Cuvier, 60 000 ans, mais des millions et des millions d'années. C'est la géologie notamment de Charles Lyell, et évidemment au XXe siècle, on va s'apercevoir que la Terre a même 5 milliards d'années. Donc, un vrai choc des origines, là encore, puisque ça signifie qu'il y a eu tout un temps très 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 long pendant lequel la Terre existait, mais sans être humain pour évoluer dessus. Et puis c'est également l'univers d'après l'homme, c'est-à-dire le moment où il y aura une dissolution de l'espèce, mais pas de dissolution de l'espace, sans mauvais jeu de mots. Les deux autres pôle, c'est sur l'axe temporel, c'est sur l'axe spatial, pardonnez-moi. D'une part l'infiniment grand, évidemment, se projeter dans quelque chose qui est tellement incommensurable que ça relativise la présence de l'être humain au monde, mais également l'infiniment petit, qui là aussi crée un vertige des échelles et surtout ouvre sur des mondes dont l'être humain est exclu, mais qui sont quand même des mondes qui ont leur fonctionnement propre et parfois des fonctionnements, je dirais, quasiment utopique, une beauté cachée qui est inaccessible à nos yeux, à nos oreilles, et qui pourtant est porteuse de quantité de choses, y compris sur le plan esthétique et pas simplement biologique. Un naturaliste comme Ernst Haeckel, par exemple, avait écrit les formes artistiques de la nature entre 1899 et 1904, et on voit bien là-dedans comment il va investir de qualités artistiques, plastiques, esthétiques, des formes qui ne s'observent qu'avec un microscope, qui sont des formes qu'on va trouver dans l'océan, ou en tout cas qui sont invisibles à l'œil nu. Et puis, il y a une dernière petite chose, je reviens à ce que je disais sur Baudelaire, en dehors de ces quatre pôles. L'univers sans l'homme, c'est aussi un univers qui est perçu par autre chose que le prisme humain. Et c'est précisément ça que dit Baudelaire, en fait. Quand il fait le reproche aux réalistes, il dit pas que le problème, c'est de représenter un monde où il n'y a pas d'être humain qui soit dans les tableaux. Ce qu'il reproche aux réalistes, c'est de faire le deuil de leur propre capacité d'idéalisation, d'imagination, et par conséquent de faire comme si ils n'étaient pas des êtres humains doués d'affect, de sentiments, mais simplement, je dirais, des formes d'instances mécaniques, semblables à un appareil photographique qui vient inventorier la nature au lieu de la réinventer. Donc Baudelaire, ça le reproche. Et ce qui est très amusant, c'est de voir comment dans l'art contemporain, chez quantité d'artistes, ce cauchemar baudelairien de démon de l'objectivité, pourrait-on dire, on va le retrouver, mais comme étant assumé avec, par exemple, des artistes qui vont travailler avec des drones, avec des caméras de surveillance, bref, avec des perceptions qui sont des perceptions non humaines. Je voudrais dire une toute dernière chose, c'est que très souvent, quand je parle de ce travail, on pense que soit je glorifie l'univers sans l'homme, ou que je suis complètement décliniste à la, d'une façon qui est en fait totalement à l'antithèse de mes points de vue sur le monde. Si je travaille sur, si j'ai travaillé sur un sujet comme celui-là, c'est bel et bien pour que on fasse regermer des éléments du vivant qui sont des éléments importants. L'univers sans l'homme, c'est aussi des prises de conscience, comme par exemple la sphère animale ou la sphère végétale. Et donc, parler de l'univers sans l'homme, je crois que c'est un travail, un sujet qui est d'intérêt général et qui doit nous permettre de rester encore un petit peu humain, du moins pour quelques années encore, surtout qu'on est en pleine crise de conscience par rapport aux perspectives transhumanistes ou post-humanistes. Et puis j'aime bien cette anecdote qu'on raconte au sujet de Martin Luther, le père du protestantisme, à qui on demandait ce qu'il ferait si la fin du monde était pour demain. Et Martin Luther répond: « Si la fin du monde est pour demain, je plante un arbre. »